Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Campus. Je suis Malika Bercy.
Et je suis Aura Nato.
Nous sommes deux étudiantes en journalisme à l'ULB et vous écoutez Histoire de savoir, une émission consacrée à la vulgarisation de sciences exactes. Aujourd'hui, nous allons vous parler de volcans. Et grâce à la magie de la radio, on vous emmènera en plein cœur de ces montagnes enflammées. Entre explications scientifiques, anecdotes historiques et immersion locale, nous allons nous plonger pendant 45 minutes dans l'univers des volcans.
Tout au long de l'émission, nous aurons la chance d'entendre Corentin Caudron, un volcanologue et chargé de cours à l'ULB. C'est un sujet complexe, il va nous aider à le décrypter. Et il va surtout nous aider à comprendre comment les volcans, qui nous semblent si lointains, nous impactent, nous les Belges. Mais concrètement, c'est quoi un volcan, Malika? Comment ça se forme?
En gros, sous la surface de la Terre, les roches fondent à cause de la chaleur et de la pression. Et ça, ça forme le magma, un mélange de roches fondues, de gaz et de cristaux. Comme le magma est moins dense que les roches solides autour, il remonte peu à peu vers la surface. Au cours du trajet, il peut s'arrêter pendant plusieurs siècles dans un réservoir appelé chambre magmatique. Mais lorsque la pression dans la chambre devient trop forte, le magma remonte de nouveau en surface. Et les mouvements des plaques tectoniques, qui créent des fissures dans la croûte terrestre, vont former un passage pour ce magma. Et lorsqu'il atteint la surface, soit le magma va s'écouler doucement sous forme de lave, soit il va complètement exploser. Mais dans tous les cas, la remontée de ces matériaux va former un volcan.
Donc ça, c'est pour sa formation, mais comment le volcan réentre en éruption par la suite?
Alors en fait, c'est le même processus, mais en boucle. Le magma s'accumule dans la chambre, et quand il y a trop de pression, il remonte. Si le magma est fluide, il s'écoule tranquillement, c'est ce qu'on voit souvent à Hawaï ou en Islande par exemple. Mais s'il est épais et riche en gaz, il va y avoir une explosion projetant du gaz, des cendres et des blocs de lave. C'est ce qui se passe par exemple lors des éruptions du Vésuve.
Je vous propose maintenant d'écouter Corentin Caudron, un volcanologue. Il nous explique l'état de la science actuelle et l'importance du travail de surveillance. Bonjour Corentin Caudron, vous êtes chargé de cours au département géosciences, environnement et société de l'ULB, mais également volcanologue. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça fait des années que les volcans sont étudiés. Pourquoi parle-t-on toujours d'une science jeune ?
C'est vrai que c'est un peu paradoxal parce que les premiers instruments sur des volcans vont être mis en place, on va dire, au début du XXe siècle, quelques décennies peut-être avant au mieux. Donc on dit science jeune, ce que je veux dire c'est que c'est surtout au niveau des instruments qui sont installés. Donc avoir des bons instruments sur les volcans qu'on va pouvoir comparer entre eux aujourd'hui, donc comparer ce qui a été enregistré il y a un siècle à aujourd'hui, c'est tout au plus 150 ans. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il y a déjà beaucoup d'écrits historiques qui ont été, on pense à Pline pour le Vésuve, etc. Donc c'est une mine d'informations, c'est certain. Maintenant, vraiment avoir un bel instrument fiable sur un volcan, c'est 150 ans tout au plus. Donc c'est ça que je veux dire par science jeune.
Est-on capable aujourd'hui de prévoir les éruptions volcaniques ?
On va pouvoir prédire les grosses éruptions sans trop de problèmes. On les voit bien venir à l'avance. Par contre, on va avoir encore du mal avec des éruptions un peu particulières, notamment les éruptions qu'on appelle phréatiques, qui sont des éruptions qui n'émettent pas de magma en surface. Ça fait qu'on a moins de mouvements, on a moins de fracturations, on a moins de tremblements de terre, voire parfois on n'en a pas. Et donc on a moins d'évidence, d'indices à la fois chimiques et géophysiques qui nous permettent de faire notre boulot correctement. Et donc on va devoir mettre au point des nouvelles méthodes ou des nouveaux capteurs et ça prend du temps.
Et concrètement, pour faire tout ce travail de surveillance, qu'est-ce qu'on regarde ?
On regarde beaucoup de choses. Si je veux faire simple, on va avoir des techniques physiques, donc basées sur la physique, ou de la chimie. Donc ça, c'est vraiment la distinction principale qu'on va faire. Et ensuite, on va pouvoir installer des instruments au sol, donc il faut aller physiquement sur le volcan, ou on va pouvoir utiliser des données satellitaires, donc utiliser tout ce qui orbite autour de la Terre. On le sait maintenant encore plus avec notre ami Musk, il y a plein de satellites partout, et on va pouvoir utiliser ça pour faire de la très très bonne surveillance, tout aussi bien dans certains cas que des instruments au sol.
A-t-on réussi à identifier tous les volcans présents sur Terre ?
Non, notamment quand on va sous eau, et on a encore découvert un énorme volcan il y a quelques années, qui est un des plus grands volcans sur Terre, et ça date d'il y a, c'est le volcan Tamou, je crois, si je ne dis pas de bêtises, ça doit être il y a 5 ans au maximum, quoi. Par contre, je dirais qu'au niveau de la terre ferme, là, ils sont tous bien identifiés. Ils ne sont pas pour autant bien compris ou bien connus. On ne connaît pas leur histoire éruptive, on ne sait pas s'ils ont fait des grosses, des petites éruptions, etc. Tout ça doit encore être étudié pour certains volcans.
Et donc, encore maintenant, on découvre de nouveaux éléments.
Oui, tout à fait. Et donc, c'est là où c'est un paradoxe, c'est que finalement, Si on regarde les fonds océaniques, ils ne sont pas bien connus, nettement moins que certaines planètes autres que le système Terre, quoi. Donc il y a encore beaucoup, beaucoup de boulot à faire et beaucoup de découvertes à faire.
Il y a de moins en moins de morts dues aux volcans. Bien que ça soit une science jeune, on voit quand même une certaine forme d'évolution.
Oui, tout à fait. Et donc ça, c'est vraiment un truc qui est super important. C'est que ça montre qu'on fait du meilleur travail, que les instruments ont évolué. Donc là, on est vraiment sur une réduction significative du nombre de morts. Comme je le disais, le gros impact qu'on a, c'est encore au niveau économique. Et donc c'est plutôt là qu'on a des soucis et qu'on s'inquiète. Mais on n'est pas dans un nombre de morts similaire aux catastrophes liées à des tremblements de terre, des glissements de terrain. Voilà, il y a une grosse réduction par rapport à ça, et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle.
Vous venez d'entendre Corentin Caudron, un volcanologue. Donc si j'ai bien compris, le but des volcanologues, c'est d'anticiper les éruptions volcaniques ?
Oui, on peut dire ça. En gros, l'accumulation du magma vers la surface va créer des signaux directs que les volcanologues vont pouvoir observer. Donc il y en a trois principaux. D'abord, ils vont être à l'affût des tremblements de terre que le magma peut engendrer en fracturant les roches. Ensuite, ils vont observer la modification du relief, parce que l'accumulation du magma va créer des déplacements de surface et va gonfler le volcan, entre guillemets. Et puis, ils vont aussi observer la composition du gaz, parce que comme on l'a dit, en remontant, le magma libère du gaz. Donc tout ça, ils vont se dire, ok, il y a peut-être une éruption qui arrive, quoi.
Même si tout ça a l'air assez abstrait et éloigné de nous, on verra plus tard dans l'émission que le rôle des volcanologues est très important, même pour nous qui sommes loin des volcans. Et maintenant, direction l'océan Indien et plus particulièrement l'île de la Réunion où se trouve l'un des volcans les plus actifs de la planète, le Piton de la Fournaise. Ce volcan de 2621 mètres d'altitude occupe environ 40% de la partie sud-est de l'île de la Réunion.
Et il entre en éruption si souvent que ça ?
Eh bien, figure-toi que oui. En moyenne, il entre en éruption une fois tous les 9 mois.
Ah ouais.
Et il est le volcan qui émet le plus de lave en termes de volume. Le Piton de la Fournaise est aussi l'un des volcans les plus surveillés au monde depuis l'installation de l'Observatoire volcanique en 1979.
Et on peut le visiter ?
Oui, d'ailleurs l'accès est plutôt facile. Ça permet au public d'assister au spectacle des fontaines et des coulées de lave, caractéristiques des éruptions effusives de ce volcan rouge. En ce début 2026, le Piton de la Fournaise est entré en éruption pendant 50 jours, du 13 février au 12 avril. Une éruption remarquable qui a ravi les curieux sur place, amateurs ou professionnels. Les éruptions sont des événements majeur pour le tourisme à La Réunion. J'ai d'ailleurs pu parler avec Marine Janot, une étudiante directement sur place.
Et quoi, elle a vu elle-même les coulées de lave ?
Eh bien, figure-toi que oui, et elle nous le raconte.
Il y avait eu la première éruption, je crois, en début de cette année. Là, on y est allé quand il a commencé à avoir les coulées de lave qui descendaient vers la route. Au départ, c'était un peu effrayant, parce qu'il y avait la fumée, donc il y avait les odeurs. En plus, du coup, c'était la nuit, donc forcément, il faisait sombre. On voyait la chaleur aussi de la lave, la rougeur, etc. Alors, il y avait énormément de monde à partir du moment où c'est descendu sur la route, etc.
Mais moi, j'étais persuadée que c'était hyper dangereux d'aller là-bas. Enfin, je m'imagine pas du tout marcher comme ça, au milieu de la lave et tout. Enfin, il n'y a pas des risques.
Si, bien sûr, il y a des risques. Bon, déjà, on va pas marcher au milieu de la lave comme ça. Mais il y a eu déjà des accidents liés au volcan, notamment quand les gens ne sont pas bien informés. On peut prendre l'exemple de Naples, par exemple, où le sol s'est affaissé alors que des touristes se baladaient autour du volcan.
Oh, bravo.
Et donc, ça a provoqué plusieurs morts.
Okay.
Mais rassurez-vous, cela reste rare. Même Corentin Caudron, le professeur qu'on a rencontré, est assez rassurant là-dessus. Marine nous explique aussi que plein de choses sont mises en place pour la sécurité.
Il y a des choses moches qui se passent, mais globalement, voilà, c'est des endroits qu'il faut aller visiter et il ne faut pas avoir de crainte. En général, on interdit l'accès au volcan. Enfin, les gens qui s'occupent de la surveillance du volcan vont interdire l'accès quand il y a une éruption qui se prépare ou qui est en cours.
C'est hyper sécurisé et c'est un site qui est très surveillé justement parce qu'il peut y avoir des éruptions. Donc à la moindre activité sismique, c'est surveillé et l'enclos peut être fermé à tout moment.
Et maintenant, je vous propose une musique réunionnaise pour rester dans l'ambiance. Voici Reste là de Anthony Drew et Mister Lolo.
bagueille, arrête, non. Pourquoi changer si tout est parfait? Bébé, pourquoi changer si tout est parfait? En ce qui concerne mon amour, tu sais très bien que je t'aime démesurément. Donc s'il te plaît, comprends quand je te dis que dans ma vie tu comptes vraiment. Et l'ami va vrai, que m'y aime quand ou appelle à moi, titou. Les têtes couillons, mais où c'est mon bouboun. Un homme sans femme, c'est un homme sans âme. Tu m'as tellement répété que je veux que tu sois ma femme. Et m'y aime quand ou appelle à moi, titou. Les têtes couillons, mais où c'est mon bouboun. Un homme sans femme, c'est un homme sans âme. Tu m'as tellement répété, bébé.
C'était Reste là de Anthony Drew et Mister Lolo.
Très sympa cette musique qui vient de La Réunion.
C'est sympa, ça change. Vous êtes toujours sur Radio Campus et vous écoutez l'émission Histoire de Savoir consacrée aux volcans. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Corentin Caudron, donc le volcanologue qu'on a déjà écouté en ce début d'émission, nous dévoile la conséquence la plus marquante d'une éruption volcanique. Et vous allez voir, vous risquez d'être surpris. Il revient également sur un effet insolite observé après l'éruption du mont Pinatubo en 1991.
Après les grosses éruptions, on pourrait croire que justement il va y avoir une grande vague de chaleur, mais au contraire, il y a une grande vague de froid.
Oui, donc c'est l'effet le plus marquant et le plus habituel. Alors on a, comme je disais tout à la fin, il y a des exceptions. C'est qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que vous avez beaucoup de gaz dans les volcans, donc le gaz volcanique. Et les gaz volcaniques principaux, en tout cas dans ces grosses éruptions, et de manière générale, ça va être le dioxyde de soufre, SO2, dioxyde de carbone, CO2, et l'eau, la vapeur d'eau, H2O. Donc ça, c'est tout le temps. Qu'est-ce qui va se passer quand il y a une grosse éruption? Vous envoyez plein de SO2 dans l'atmosphère, okay, donc du dioxyde de soufre. Ce dioxyde de soufre, quand il arrive dans la stratosphère, donc on va dire cette limite à 20 km d'altitude, il rentre dans la circulation globale océanique et il va réagir, le SO2, avec plein de choses. Mais il va notamment former des petites particules, des aérosols, qui vont avoir comme effet de bloquer partiellement les radiations qui viennent du Soleil. Donc le Soleil, ben, on le voit, heureusement, sinon on aurait froid. Il arrive toujours sur Terre. Si vous mettez plein de particules, c'est comme s'il y avait un nuage de cendres très très haut dans l'atmosphère, ça va bloquer une partie des radiations solaires, et ben, in fine, il fait plus froid là où nous on se trouve. Le problème de ces éruptions, c'est de cet effet, si vous voulez, c'est qu'il va parcourir le globe, donc vous allez avoir cet effet qui va se mettre partout dans le monde, et qui va pouvoir persister. C'est des grosses éruptions, Pinatubo 91, c'est 2 ans. Si on prend des plus grosses éruptions, ça peut être 10 ans. Donc c'est un peu l'effet principal, c'est ce refroidissement, qui aujourd'hui serait le bienvenu. Mais c'est là qu'on rentre dans toute la théorie, c'est pas une théorie, mais tous les problèmes de géo-ingénierie, de manipulation du climat, etc.
Et cette vague de froid, elle a d'ailleurs une conséquence assez cocasse, un baby-boom d'ours polaires. Est-ce que vous pouvez me l'expliquer ?
Alors, je ne vais pas faire de cours de sexologie, mais donc qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'il a fait très très froid. Enfin, très très froid, attention, on n'est pas à moins 15 degrés par rapport à d'habitude. Il y a un refroidissement d'un degré à la surface du globe. Statistiquement, donc c'est vraiment quelque chose observé, il y a l'augmentation dans la population infantile, je ne sais pas si on peut dire infantile, mais des bébés ours polaires pendant 1 ou 2 ans après l'éruption du Pinatubo. Donc, est-ce que c'est une corrélation ? A priori, on pense que oui. Donc, il faut toujours attention à causalité, corrélation, quand on parle en termes scientifiques. Ici, c'est quelque chose qu'on observe de manière très, très probante, statistiquement, et donc on pense que simplement ce refroidissement a fait que la population d'ours polaires a pu grandir, a pu être plus active, et donc a pu procréer de manière plus efficace,
Vous venez d'écouter Corentin Caudron, qui nous a d'ailleurs dit cette anecdote très sympa sur le baby-boom.
Sympa, un petit baby-boom d'ours polaires.
Est-ce que tu veux une autre anecdote, Malika, d'ailleurs ?
Bien sûr, Aurane, fais-nous kiffer.
Eh bien, figure-toi que suite à l'éruption de Tambora en 1815, le froid aurait potentiellement inspiré le livre de Frankenstein.
Ah bon ? Hein ? Attends, moi aussi j'ai une anecdote.
C'est vrai ?
Est-ce que vous voyez le tableau Le cri de Munch, je ne sais pas comment on dit ? Eh bien, selon certaines théories, c'est l'éruption de Krakatoa en 1883 qui aurait inspiré le ciel rouge là derrière le tableau.
Comme quoi, les volcans ont des conséquences insoupçonnées. D'ailleurs, en parlant d'anecdotes, je vous propose qu'on commence un petit jeu. Est-ce que tu veux jouer, Malika ?
C'est parti !
Ok, donc n'hésitez pas à jouer avec nous pour vous tester un petit peu sur les volcans. Donc première question, quel est le pays avec le plus de volcans ? Réponse A, le Japon. Réponse B, l'Indonésie. Réponse C, le Pakistan. Et réponse D, les États-Unis.
Attends. Je vais éliminer les États-Unis. Je sais pas, ça m'inspire pas. Full volcan.
Okay.
C'était quoi la réponse B ?
Indonésie.
Ben, je dirais ça.
Et Indonésie. Très bonne réponse, Indonésie. Merci. Je sais pas si vous l'aviez trouvé aussi, mais c'était la bonne réponse. Deuxième question, comment s'appelle le célèbre volcan qui a détruit plusieurs villes, dont la plus connue est Pompéi en 79 ?
Ok. Bon, est-ce vas-y, que... donne les propositions, okay. Mais j'ai quand même ma petite idée.
Très bien. Réponse A, le Vésuve. Réponse B, la montagne Pelée. Et réponse C, le Krakatoa.
Je dirais le Vésuve.
Très bien. Bon, yes. J'avoue, c'était facile, mais on commence tranquillement. Troisième question, un vrai ou faux cette fois-ci ?
Ok.
Il y a environ 1500 volcans terrestres actifs.
Ok.
Vrai ou faux ?
Ah, c'était ça, là. 1500 ?
Oui.
Actifs ? Donc juste terrestre, parce que je sais qu'il y en a plein.
Oui, on parle uniquement des volcans terrestres.
Bah, je sais pas, je vais dire vrai.
Et oui, c'est vrai. Selon les comptages, il y a entre 1330 et 1670 volcans actifs. Donc un volcan est considéré en activité dès lors que la dernière éruption a eu lieu il y a moins de 10 000 ans.
Ok, d'accord.
Ensuite, on quitte la Terre pour aller sur la Lune. Toujours avec un vrai ou faux, la Lune possède-t-elle des volcans ?
Oh waouh, je me suis jamais posé cette question. Bah, je sais pas, je dirais non.
Eh bien, c'est une mauvaise réponse. La Lune possède des volcans qui avaient une activité il y a environ 2 milliards d'années.
Je me doute que si t'as posé la question, c'est que c'était vrai, j'aurais dû répondre comme ça, mais bon.
C'est pas grave, t'as d'autres chances de te rattraper.
Ok, ça va.
Encore un vrai ou faux, une éruption d'un volcan sous-marin peut provoquer des tsunamis.
Bah, je sais pas, ça me semble logique. Je dirais,
donc tu dirais,
vrai.
Eh bien, c'est une bonne réponse.
Okay.
Plutôt logique, en effet. Très bonne réponse. Ensuite, vrai ou faux, l'archipel de Santorin en Grèce est le fruit d'un volcan ?
L'archipel de Santorin en Grèce ?
Est-ce que tu connais Santorin ?
Alors, pas du tout. Enfin, si, je vois Santorin, mais je suis jamais allée. Bah, je sais pas, je dirais que c'est vrai.
Oui, effectivement, pardon. L'île de Santorin résulte d'une longue et intense activité volcanique. Une ultime explosion il y a 3600 ans fit éclater l'île, donc pour faire apparaître Santorin qu'on connaît actuellement.
Ok.
Voilà, j'avoue qu'avant de préparer ce petit quiz, je n'en avais pas connaissance.
Ça va, je suis pas la seule.
Bon, pour l'instant, tu as pas mal de bonnes réponses, c'est bien. Je sais pas si c'est le cas à la maison aussi. On continue. À son plus chaud, la lave peut atteindre une température de 500 degrés Celsius, vrai ou faux?
Peut-être je suis folle, mais je dirais que c'est beaucoup plus que ça, donc je dirais faux.
Eh ben, tu as totalement raison, c'est faux. La température de la lave peut s'élever jusqu'à 1250 degrés Celsius, donc bien plus que 500.
Bah, tout à l'heure, elle avait pas peur, hein, Marine, autour de la lave.
C'est vrai, elle est courageuse. On continue. En avril 2010, les cendres provenant d'un volcan, donc qui est plutôt compliqué à prononcer, mais je vais m'essayer à la tâche. Donc le volcan Eyjafjallajökull aurait perturbé le trafic aérien de l'Europe pendant près d'une semaine. Vrai
ou faux ? Et quand ça, t'as dit quoi ?
En 2010,
j'avais 6 ans, donc je suis pas trop au courant de ce qui se passe. Enfin, j'avoue que j'étais pas full volcan à ce moment-là, mais bon, vas-y, je vais dire faux. C'est faux.
Non, c'est vrai.
C'est vrai,
effectivement. Donc là, ça nous montre vraiment les conséquences que peut avoir un tel phénomène. Donc ce volcan un peu compliqué à prononcer, il est situé, pour information, au sud de l'Islande. Voilà, okay. Je ne vais pas le reprononcer une deuxième fois. Vous comprenez pourquoi. On continue. Le mont Fuji est-il un volcan actif?
Le mont Fuji, non, il ne m'inspire pas actif.
Eh ben, tu te trompes. Il est considéré comme actif. Donc le Japon se prépare à une éventuelle éruption du volcan, même si la dernière remonte à 1707.
Ah oui, d'accord.
Donc,
oui, actif. Okay, actif. Ouais, bon, en fait, je sais pas, parce que dans ma tête, actif, c'est vraiment, il est tout le temps en effusion.
Ouais, non.
Mais c'est pas vraiment ça, ouais, c'est vrai.
On continue. Quel est le plus grand volcan terrestre actif au monde? Je vais te faire des propositions.
Oui, c'est
Réponse A, l'Etna. Réponse B, le Mont Sainte-Hélène. Réponse C, le Mauna Loa.
Alors, parce que je pense que c'est celui dont on entend plus parler, en tout cas que je pense que les gens connaissent de nom, je dirais l'Etna.
Malheureusement, ce n'est pas la bonne réponse. Oh, la bonne réponse, c'est le Mauna Loa.
Ok.
Même si c'est vrai que l'Etna est plutôt connu. On continue maintenant, on part chez nos voisins français. Selon toi, vrai ou faux, tous les volcans de France métropolitaine sont inactifs?
Tous les métros
Tous les volcans de France.
On a changé d'émission, on parle de métro. Tous les volcans de France métropolitaine sont-ils actifs?
Sont inactifs,
sont
vrai
inactifs,
ou faux?
Vrai ou faux? Ouah, j'en sais rien du tout. Franchement, bah, je sais pas, pile ou face, faux.
Eh ben non, mauvaise réponse, c'est vrai. Donc tous les volcans sont inactifs, mais ils ne sont pas tous éteints pour autant. Ils sont endormis depuis très longtemps. En 2006, un volcan en sommeil depuis 14 000 ans est entré en éruption en Alaska. Donc voilà,
mais c'est
ça ne fait rien.
Heureusement qu'il y a la volcanologie pour nous prévenir.
Ok, plus que deux questions.
Ok.
Donc c'est bientôt fini. Vrai ou faux, les volcans sont ont façonné 50% de la surface de la Terre?
Je crois que c'est vrai. Je crois qu'en tout cas, ils ont façonné quand même une grosse partie de la Terre. Et je crois que j'ai lu ça en préparant l'émission, mais j'ai l'impression d'avoir rêvé en même temps. Mais je me dis vrai.
Donc pour ça, c'est vrai. Malheureusement, c'est faux.
Allez, parce qu'ils ont... j'ai mal lu.
Ils ont façonné, donc, comme tu l'as dit, une grande partie. Et donc, ce n'est pas 50%, mais 80%
ah oui,
de la surface de la Terre.
Beaucoup
donc, tu avais le bon raisonnement. Mais
c'est dingue.
Voilà. Donc, dernière question pour te rattraper.
Okay.
L'éruption la plus violente jamais enregistrée date de 1823. Vrai ou faux?
Je pense pas. Je pense qu'il y en a une après, plus tard. Je sais pas, je dirais faux. C'est
très
vrai,
bien.
C'est
tu
faux.
Finis sur une bonne réponse,
ah,
c'est faux. Okay. Donc la plus violente date de janvier 2022.
Ah oui.
Voilà. Mais avant ça, c'était bien celle de 1883.
Ok.
Mais donc en 1823, pardon, c'était celle du Krakatoa. Et donc celle de 2022, pardon, je me perds dans les dates. C'est celle des archipels des Tonga, donc qui a provoqué des grands tsunamis. Voilà.
Ah ok, d'accord. Donc j'avais raison sur le tsunami de toute façon.
Voilà, donc je suis plutôt contente de tes réponses. Je trouve que t'as quand même eu pas mal de réponses. Je sais pas si vous avez pu répondre à la maison de la même façon, mais bravo Malika.
J'espère que ça vous a appris des choses. Merci pour ce petit jeu, Oran. Alors pour rester dans le thème des volcans, toujours, je vous propose qu'on s'écoute Volcano de U2. C'est maintenant sur Radio Campus. Tonight, you can hurt yourself trying to hold on to what you used to be. I'm so glad the past is all gone. Being out in the wild, being out in the night, being out of your mind. You live here, or is this a vacation? Oh, C'était Volcano de U2. Franchement, très chouette musique. Quand on a préparé cette émission, on a vu plein de musiques en fait sur les volcans. Donc vraiment, ça inspire les gens, apparemment, la musique.
C'est vrai que c'est un thème plutôt explosif, si je peux dire.
Mais enfin, en Belgique, je trouve qu'on est quand même plutôt safe au niveau des volcans. Enfin, en tout cas, moi, j'en ai pas vu à Bruxelles.
C'est vrai que moi aussi. D'ailleurs, on appelle la Belgique le plat pays. Donc, je pense que... Et pourquoi on fait cette émission en fait ? Non, en vrai, c'est pas si simple, puisque on a parlé de ça justement avec le volcanologue Corentin Caudron, et il a un peu nuancé justement.
C'est clair, c'est vrai qu'on se sent intouchable, mais on pourrait dire que les volcans nous impactent jamais, mais en fait, c'est bien plus complexe que ça. On écoute Corentin Caudron.
Quelle est la probabilité actuellement qu'il y ait des éruptions volcaniques ?
Alors, une très très grosse éruption, type... donc magnitude, on va dire, on parle en magnitude pour faire simple, 7 ou 8, qui aura un impact colossal à l'échelle du globe, on est à une probabilité d'un sur 6. Ce qui peut paraître faible, mais qui est en fait très élevé, parce que ça veut dire qu'en fait, il n'y a plus ce type d'éruption depuis 1000 ans déjà, et donc on est dans le moment où on s'attend à ce qu'elles arrivent. Donc ça peut être ce siècle-ci, ça peut être le siècle prochain, peut-être encore celui d'après, mais on est en train d'arriver dans des probabilités plus élevées, quoi.
Et est-ce que ça peut arriver en Europe ou même en Belgique ?
Belgique, peu probable. Les dernières activités magmatiques, elles datent d'il y a 400 millions d'années. On n'a pas d'inquiétude de ce côté-ci, rien qui bouge. Si on va vers l'Allemagne, on peut avoir des magnitudes 6. Ça s'est produit il y a 13 000 ans. Donc c'est quand même costaud. Hein, le jour où on aura une magnitude 6, on va pas rigoler ici. Il y aura de la cendre. C'est quand même quelque chose qui aura des impacts. Maintenant, on ne parle pas d'un super volcan, quoi. Si on veut un super volcan, qui est un terme qu'on déteste, mais je vais quand même l'utiliser, on doit aller vers l'Italie, la Grèce, la Turquie. Là, c'est vraiment des gros bébés, comme on dit. Enfin, je ne sais pas si on le dit, mais moi, je le dis. Donc, c'est des gros volcans, quoi.
Et concrètement, il se passerait quoi, ici, à Bruxelles, si le volcan en Allemagne entrait en éruption ?
Alors, on aurait, en termes directs, quelques heures, quelques jours après, probablement de la cendre. Okay, donc ça va évidemment embêter les gens, parce que on a problème de luminosité, les gens vont avoir peur. On dit, okay, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il fait noir ? Alors, ça ne va pas être noir, mais ça va être sombre. Il y a l'irritation des voies respiratoires. Genre asthmatique, etc., c'est problématique. C'est comme une pollution industrielle, si vous voulez. Donc on n'aime pas être à ces endroits-là, surtout les personnes vulnérables. Je ne pense pas qu'on aura des dégâts routiers, fermeture des autoroutes. Je ne pense pas qu'on va avoir des réfugiés allemands qui vont affluer chez nous. Ils vont rester dans leur pays, ils vont être évacués correctement. Donc ce sera plutôt ce qu'on appelle des conséquences indirectes, pas trop gênantes, quoi. Par contre, on aura un effet de toxicité sur du long terme avec des gaz qui peuvent irriter à nouveau les voies respiratoires et affecter les gens vulnérables, que ce soit les gaz ou la cendre. Donc c'est vraiment ça principalement qu'on aura.
Après avoir identifié une potentielle éruption, comment on se prépare ?
On va évacuer les gens, première chose. Donc qu'on pense à Naples. Alors c'est une partie qui est sur Naples, mais on va, première chose, on va évacuer tout le monde, s'ils veulent bien, ça dépend des pays. Donc là, il y a tout un système de coordination qui n'est pas mon boulot, en fait. Moi, je vais juste essayer de trouver des signaux qui laissent penser qu'on va aller vers une éruption. Quand ces signaux sont identifiés, on informe l'observatoire qui, lui, va typiquement informer la protection civile, par exemple, et dire « Ok, on prend les plans d'évacuation ». On doit évacuer ce district-là, d'abord celui-là, sinon il y aura des bouchons, etc. Donc ça, c'est la première chose qu'on fait. Quand tout ça est fait, on voit comment ça évolue. Donc l'éruption peut commencer. Et on va surtout voir si elle va évoluer en taille, en intensité. Et alors là, éventuellement, évacuer plus. Donc ce qui arrive souvent, c'est qu'on commence par évacuer une petite zone. Et puis ensuite, on va évacuer de plus en plus. Et donc on ne sait faire que ça. Après, il y a toute la partie camp de réfugiés qu'il faut gérer, approvisionnement en eau potable, etc. Donc ça, c'est vraiment tout un boulot. Le paddock ne me concerne pas, mais si, en fait, il ne me concerne pas.
Donc c'était Corentin Caudron, le volcanologue qu'on entend depuis le début de l'émission. Bon, on risque pas de mourir tout de suite à cause d'un volcan à Bruxelles, mais bon, c'est quand même des conséquences dont peu de gens ont conscience, j'ai l'impression.
Bah oui, mais d'ailleurs, je savais même pas qu'il y avait des volcans en Allemagne. Ouais. C'est pas si loin. Hein.
C'est quand même pas loin. Puis même, j'imagine, enfin, quand il y a des grèves ici, je vois déjà qu'au niveau de l'organisation, c'est pas facile. Si il y a de la cendre partout, j'imagine le bordel dans Bruxelles.
Bon, d'ailleurs, la volcanologie, c'est pas une chose dont on entend beaucoup parler. Donc les volcanologues comme Corentin Caudron qu'on vient de comme Corentin Caudron qu'on vient d'écouter, ils essaient de prévenir les pouvoirs publics des risques d'une éruption, donc qui toucherait le monde entier, on l'a bien compris, mais ils ont l'impression de ne pas beaucoup être entendus. Donc on parlait tout à l'heure d'une grande vague de froid, quel est l'impact sur nous directement ?
Sur les hommes, on va parler de quelques degrés maximum. Hein, donc c'est beaucoup, hein, quelques degrés à l'échelle de la Terre. D'ailleurs, on le voit, chaque augmentation de 0,1 degré, on voit toutes les conséquences que ça a. Donc ici, nous, je pense qu'on arriverait très bien à fonctionner sans problème. Il va y avoir le problème de famine, comme on l'a vu au siècle dernier. Problème au niveau de l'agriculture. Maintenant, on le voit dans le détroit d'Ormuz, avec les engrais qui ne transitent pas, on a des problèmes similaires. Donc c'est un peu ce genre de choses auxquelles on va devoir s'adapter. Et sur du temps long, donc il va falloir planifier tout ça. Donc quand on fait des évaluations, moi je vais faire ça pour la Belgique, l'évaluation des risques, on dit ok, qu'est-ce qu'on va avoir comme implication, qu'est-ce que ça va avoir comme impact routier s'il y a une grosse éruption, impact au niveau de l'agriculture, mais ça va pas avoir, a priori on n'aura pas des milliers de morts directement, ça sera plutôt des morts indirectes liées à tout ça dans des pays pauvres comme toujours, quoi.
C'est vrai qu'on n'entend pas très souvent parler des volcans, est-ce que vous avez la sensation d'être assez écouté par les pouvoirs publics ?
J'aurais eu tendance à dire que oui à l'époque, maintenant j'ai vraiment des doutes parce qu'il y a une défiance manifeste envers la science même en Belgique et donc je pense que non, ça certainement pas. Et aujourd'hui certaines tendances politiques n'ont pas du tout envie ni d'écouter ni de s'informer. Avant qu'on voyait des pouvoirs politiques, oui, si, ils étaient très, très sensibles à ça et ils écoutaient. Aujourd'hui, je suis peut-être très négatif, mais c'est pas le cas partout dans le monde, hein, mais je travaille en Équateur, là j'ai un projet qui va peut-être se lancer en Équateur. Eux-mêmes le disent, vous avez une nouvelle tendance politique qui est plus proche d'une tendance politique à la Trump. Ils coupent dans les budgets scientifiques en premier hors l'Équateur, il y a les glaciers qui fondent, il y a des éruptions volcaniques très violentes, ils ont eu des VU, les magnitudes 8 ou 7 par le passé. Voilà, le pouvoir politique s'en fout et a décidé de ne plus injecter dans la recherche, quoi. Donc, c'est de nouveau quelque chose qui est très local, mais qui est quand même une tendance qu'on observe, je pense, au niveau politique, au niveau global, quoi. Ici, c'est un peu ce qu'on essaie de dire au pouvoir public. C'est faites attention parce que ça va se produire, on le sait. Là, de nouveau, on a une statistique extrêmement robuste. C'est comme ça que ça fonctionne. À un moment, on va s'en prendre une qui est un peu plus violente et on n'est pas prêt pour ça. Et il faut mieux les étudier, il faut savoir où ça va se produire et surtout se préparer à mettre en place des scénarios. Ok, si on a ça aujourd'hui à cet endroit-là dans le monde, comment on gère ça ? Comment on gère les famines ? Comment on gère la rupture des communications ? Un peu ce qui se passe au niveau, je dirais, du contexte géopolitique actuel, qui n'a rien à voir avec un volcan évidemment, mais vous coupez le détroit d'Ormuz, qu'est-ce qui se passe ? Ben, le monde en pâtit à tous les niveaux, quoi. Ce ne sera peut-être pas aussi violent, mais ça va arriver, quoi. Donc il faut s'y préparer. Et ce qu'on essaye de dire aux agences de financement, c'est qu'on doit se préparer à comment on peut gérer une très très grosse éruption au niveau télécommunication, donc fibre optique. Là, l'éruption des Tonga dont j'ai parlé, elle a cassé un câble de fibre optique, donc il n'y a plus d'internet, comment on communique, comment on envoie les secours, etc. Donc c'est un peu ce genre de choses qu'on voudrait auxquelles on voudrait réfléchir aujourd'hui, quoi.
Très bien, et bien on va clôturer cette interview. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à toutes ces questions.
C'était donc Corentin Caudron, un volcanologue et chargé de cours à l'ULB. Cette émission Histoire de savoir touche déjà à sa fin. Elle était consacrée aux volcans, donc toujours sur Radio Campus. Elle nous aura appris que la volcanologie est une science jeune, en pleine évolution, mais qu'elle est indispensable. Cette science sert à prévenir des potentiels risques d'éruption, mais pas que. Les volcanologues sont ancrés dans le réel, ils espèrent prévenir au mieux pour que les populations puissent se préparer si une catastrophe devait arriver.
Même si on a l'impression que les volcans sont des phénomènes étrangers à nous, ces conséquences sont mondiales. Les éruptions volcaniques peuvent affecter la température de la planète. En temps de crise environnementale, c'est un aspect non négligeable de la réalité.
On espère que cela vous a plu et que vous avez appris plein de choses sur ces phénomènes naturels, plein de surprises.
Un sujet fascinant que nous avons pu explorer à l'aide de Corentin Caudron, chargé de cours au département Géosciences, Environnement et Société de l'ULB. Son expérience sur le terrain nous a permis d'apprendre davantage sur l'importance de la surveillance des volcans. Merci beaucoup à lui et merci également à Marine Jeannot pour son témoignage en provenance de La Réunion.
Merci également à l'équipe technique de Radio Campus, c'était Malika Bercy et Oranato. On vous laisse sur un classique explosif, voici Allumer le feu de Johnny Hallyday sur Radio Campus. Belle journée à tous et à tous.
Il suffira d'une étincelle et d'un mot d'amour.